Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 80 ans, le 2 mars 1941, le colonel Leclerc prononçait le serment de Couffrat à l'issue de la bataille de Couffrat entre les forces françaises libres et le Long Range Desert Group britannique face à l'armée italienne. Nous sommes en compagnie de Dominique Lormier, historien, auteur du livre « Comme des lions » qui vient de paraître en poche à la Mécanique Générale. Dominique Lormier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, nous sommes début 41, un peu plus de 6 mois après la tragédie de mai-juin 40. Comment la France libre a-t-elle pu réunir 350 hommes, parce qu'ils sont à peu près 350, pour se battre dans le désert libyen ?
Oui, en vérité, il y en a même beaucoup plus, parce qu'il y a eu un certain nombre de territoires africains, des colonies françaises, qui ont rallié la France libre dès 1940, et suite aux actions également qui ont été entreprises par des unités de la France libre, si bien que un certain nombre de territoires, dont notamment le Tchad qui se trouve au sud de la Libye, a rallié le général de Gaulle. Donc le colonel Leclerc, lui, se trouve à ce moment-là au Tchad, et c'est lui qui va parvenir à regrouper donc cette colonne motorisée qui va mener cette action offensive contre la forteresse de Couffrat.
Alors justement, vous l'avez rappelé, les hommes sont des tirailleurs de sénégalais partis du Tchad, alors français, voisins, avec à leur tête le lieutenant-colonel Jean Colonna d'Ornano. Avant que ce soit Leclerc, on en parlera après. On ne peut pas dire qu'ils aient un armement lourd, car ils ont en tout 56 véhicules, 2 automitrailleuses et un canon de 75 modèle 1897.
Oui, c'est un canon qui est un canon de montagne, donc qui a l'avantage de tirer des obus à tir courbe. Et c'est un avantage par rapport aux Italiens, parce que les colonnes, ce qu'on appelle les Sariani, qui sont les colonnes motorisées italiennes dans le désert, ne sont équipées que de canons mitrailleurs ou de mitrailleuses et non pas de mortiers ni de pièces d'artillerie. Et donc ça va être un avantage qui va être du côté de Leclerc, puisque lui va pouvoir mener des opérations donc commando contre les unités italiennes, mais avec l'avantage aussi de l'artillerie motorisée.
Alors justement, Jean Colonna d'Ornano, qui est lieutenant-colonel, est remplacé par le colonel Philippe de Haute-Cloque, pas encore connu sous le nom de Leclerc. Qui est-il ? Et est-ce que c'est juste le grade, colonel étant supérieur à lieutenant-colonel, qu'il fait commander ce groupe d'hommes ?
Ben, Leclerc, de toute façon, a rallié la France libre dès le début. Il a combattu en mai-juin 40, où il a été blessé d'ailleurs durant les combats de mai-juin 40. Et ensuite, il a rallié la France libre. Et le général de Gaulle est très impressionné par sa personnalité. Et donc, il décide de l'envoyer finalement pour mener des opérations de guérilla sur les arrières des troupes allemandes au sud de la Libye. Donc, c'est lui qui va prendre la suite du lieutenant-colonel d'Ornano et qui va mener donc cette opération militaire de Couffrat avec l'aide également des Britanniques et également d'une aviation de reconnaissance qui va permettre donc de cibler l'emplacement de la forteresse de Couffrat et de mener cette opération militaire.
Avec notamment de vieux avions, enfin des avions, pas des grands avions de combat, des Blenheim britanniques.
Qui étaient des bombardiers, mais qui avaient quand même une relative efficacité. Ils étaient, je dirais, efficaces pour la guerre sur le territoire européen, mais pas du tout sur le territoire africain, où ils supportaient mal la chaleur et également le sable.
Alors justement, il y a deux batailles dans la bataille de Couffrat. La première qui est une bataille de mouvement dans le désert, entre les hommes de Leclerc et les Italiens de la Sariana di Couffrat, une compagnie motorisée qui est mise en déroute entre les 16 et 19 février.
Absolument. Alors, il y a eu des combats très durs. Alors, on peut pas dire que c'est véritablement une mise en déroute parce que les Italiens ont posé une résistance acharnée, mais les Français avaient l'avantage, justement, d'avoir des armes à tir court, c'est-à-dire un canon de 75 et également des mortiers. Et les Italiens, lorsqu'ils étaient cachés derrière les dunes, ne pouvaient pas répliquer parce qu'ils n'avaient pas d'armes, justement, à tir court. Donc, ils ont mené des opérations d'attaque et de contre-attaque. Ils ont finalement été repoussés, justement, grâce à l'avantage des Français qui avaient justement, ces pièces d'artillerie, si bien que la Sariani di Couffrat a été obligée, contrainte de finalement de retraiter et a laissé à découvert finalement la garnison italienne de la forteresse de Couffrat.
Alors justement, cette compagnie, elle se replie dans le fort de Couffrat et commence alors le siège. C'est quelque part la phase 2 de la bataille. Et il y a quand même un bluff, c'est un excellent artilleur, le lieutenant Secaldi, qui va bluffer les Italiens en déplaçant le seul et unique canon, faisant croire à ceux-ci que les canons sont plus nombreux. Il est aussi aidé par des mortiers. Et dans le même temps, les camions tournent, faisant croire à un surnombre massif des Français. C'est un énorme coup de poker, un énorme coup de bluff.
Ah oui, ben ça a été un coup d'audace de Leclerc, mais Leclerc était, je dirais, un adepte de ce genre de combat. Il va le prouver au sein de la division Leclerc, la deuxième DB. C'est-à-dire, il a véritablement bluffé les Italiens en leur faisant croire qu'ils sont plus de 3000, alors qu'en vérité, ils sont 350 face à 310 Italiens. Donc les Italiens vont être persuadés que les Français sont beaucoup plus nombreux et qu'ils ont une puissante artillerie, alors que les Italiens ne peuvent pas répliquer justement par de l'artillerie, puisqu'ils n'ont que des mitrailleuses. Et d'autant plus que Leclerc a été alarmé, je dirais, il a été mis en garde du fait qu'il y a eu une autre garnison italienne qui se trouvait à Djerabou, également en Libye, qui a résisté pendant 3 mois à des forces britanniques de 10 fois supérieures en nombre, où elle s'est battue héroïquement, et Leclerc ne veut absolument pas, je dirais, un bis repetita de cette résistance héroïque italienne de Djerabou qui pourrait se répéter à Koufra. Donc véritablement, il va ruser en faisant véritablement croire qu'il dispose de forces 10 fois plus importantes que celles des Italiens.
Alors justement, le 28 février, les Italiens demandent que les blessés soient mis à l'abri, ce que Leclerc refuse. Le 1er mars, des parlementaires sortent du fort et demandent aux Français leur proposition pour une reddition dans l'honneur. Les discussions durent jusqu'à ce que Leclerc s'invite aux négociations et ordonne aux Italiens de remonter dans leur véhicule. Lui-même se joint à eux avec 2 officiers et leur commande de regagner le fort. Le coup de bluff marche encore, puisque les Italiens rejoignent le fort. Et arrivé en présence du commandant italien, Leclerc impose ses conditions et les Italiens signent la capitulation immédiatement. Encore un coup de bluff.
Oui, c'était un coup de bluff sur un plan psychologique, parce qu'il a sondé véritablement que les Italiens étaient à la dérive du fait qu'ils aient demandé l'évacuation de leurs blessés. C'était un signe de faiblesse de leur part. Et tout de suite, Leclerc a saisi l'occasion pour imposer véritablement une capitulation générale avec les honneurs aux soldats italiens. D'autant plus qu'ils avaient un ravitaillement qui était extrêmement limité. Ils ne pouvaient tenir qu'un certain temps. Donc, Leclerc ne l'ignorait pas, donc il a véritablement joué sur le moral pour faire plier véritablement les Italiens.
Alors justement, la bataille est terminée à ce moment-là. Les combats ont causé 3 morts et 4 blessés côté italien. Côté français, c'est 4 morts et 21 blessés. C'est très peu pour une bataille qui est rentrée dans l'histoire. On n'est pas à Stalingrad ou à Verdun.
Oui, alors c'est une bataille qui a eu un impact psychologique parce que c'est une des premières victoires de la France libre. Il y en a eu d'autres également en Afrique orientale durant la même période, avec également la brigade Monclar, qui était commandée par Magrin Verneret. Mais cette victoire est véritablement symbolique de la France libre, la victoire de Koufra, parce qu'elle permet la conquête du faisan du sud de la Libye par les troupes françaises, puisque la forteresse de Koufra était quand même un lieu stratégique important, et également c'est véritablement un symbole de la renaissance militaire de la France qui remporte des succès militaires face aux troupes germano-italiennes.
Alors justement,
et surtout que ça va être suivi par le fameux serment de Koufra.
On va en parler. On va en parler. Le 3 mars, De Gaulle adresse à Leclerc un télégramme de félicitations dans lequel transparaît la fierté du chef de la France libre. Il écrit « Les glorieuses troupes du Tchad et leur chef sont sur la route de la victoire, je vous embrasse ». Et la BBC diffusera un peu plus tard la nouvelle de la victoire en des termes très élogieux. Est-ce que c'est la renaissance de la France après mai-juin 40 ?
Absolument, ça a été la renaissance, mais il faut savoir que l'armée française, en mai-juin 40, s'est battue héroïquement aussi. Elle a permis le rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque. Voilà, comme je le rappelle dans mon livre « Comme des lions », et il y a eu véritablement une renaissance, je dirais, militaire française dès les combats de mai-juin 40, avec des combats acharnés et des pertes très lourdes du côté allemand, qui ont quand même perdu entre 30 à 50% de leurs chars contre l'armée française. Donc véritablement, on peut dire, comme le disait le colonel Rémy, que la résistance française a commencé le 2 septembre 1939, avec la déclaration de guerre et les corps francs qui avaient mené des opérations militaires audacieuses dans les lignes allemandes. Et elle s'est poursuivie, bien entendu, suite à l'armistice de mai-juin 40, avec la France libre et la résistance intérieure, et ensuite l'armée d'Afrique. Donc directement, on peut dire que la France a été présente durant toute la durée du conflit.
Et à l'issue de la bataille, le 2 mars 41, il y aura 80 ans, mardi, le colonel Philippe Leclerc prête avec ses hommes le serment de Koufra, je cite, « Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Les Français tiendront serment en libérant Strasbourg le 23 novembre 44. » Et Leclerc sera à leur tête, c'est à la tête de la deuxième DB.
Oui, mais il est allé au-delà, parce qu'il est allé jusqu'à Berchtesgaden, c'est-à-dire il a occupé en avril-mai 1945 le nid d'aigle d'Hitler, c'est-à-dire qu'il a été au fin fond de l'Allemagne avec la 2e DB, la 2e division blindée. Donc son serment de Koufra a été non seulement rempli, mais il a été au-delà même du remplissage, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il a véritablement couvert de gloire l'armée française, avec également aussi l'armée de Lattre, la première armée française.
Et il deviendra donc le maréchal Philippe de Hautecloque, dit Leclerc, le maréchal Leclerc. Merci beaucoup Dominique Lormier, historien, auteur, ça vient de sortir en poche, c'est la mécanique générale de Comme des lions, mai-juin 40, le sacrifice héroïque de l'armée française. Et il y aura une suite dans laquelle vous parlerez de la bataille de Koufra d'ailleurs.
Voilà, dans un tome 2 Comme des lions qui va sortir au mois de mai.
Merci.
Aux éditions Ring.
Eh bien on en parlera sur Sud Radio, vous pouvez compter sur moi mon cher Dominique Lormier, merci à vous.